Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florent Berdeau.
Bonjour Léa Louise.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Avec plaisir.
Racontez-moi Florent, comment et pourquoi vous êtes devenu avocat?
Si je vous dis j'en sais rien, je ne sais pas si c'est très vendeur pour mon histoire. Mais
ce serait le cas de au moins 50% des invités du podcast.
Eh bien, je ne sais pas, parce que c'est peut-être très cliché de dire ça, mais j'ai toujours voulu être avocat. Je ne connaissais pas, donc je ne connais pas d'avocat dans ma famille. Donc je n'ai pas d'exemple, pas d'amis en particulier. Et j'ai eu peut-être une petite phase à 10 ans, tiens, je vais être pompier ou vétérinaire, mais qui n'a pas duré plus que ça. Et je n'ai jamais eu d'autres envies. Je n'ai jamais eu d'autres même désirs de faire d'autres études. Je l'ai même un petit peu regretté après, c'est que je me suis assez vite, moi, orienté. J'ai pas fait d'études à l'étranger. Je me suis pas challengé pour faire des concours et...
Ça a été ligne droite, quoi.
Ligne droite.
Avocat,
la fac.
Fac et... de droit, CRFPA, CAPA et voilà. Où on exerce.
Alors, avec une petite pause, thèse dedans, quand même. Petite, la petite folie.
Ouais, mais et en la tout thèse, cas, c'était en sachant que vous alliez devenir avocat après, mais en vous disant, j'ai le temps, je prends le temps. Comment vous voyez les choses?
Alors, très bonne... Donc, c'était en DEA, le Master 2, pour les plus jeunes auditeurs. Mais en DEA, donc moi, vraiment, j'ai eu un parcours extrêmement classique d'universitaire, donc de fac. J'ai pas fait d'école de commerce à côté. J'ai vraiment fait la fac classique. Et en cours de DEA, donc j'ai fait mon mémoire, c'était donc le DEA, c'est le master recherche, donc j'ai fait mon mémoire en 2000 sur le patrimoine du couple Pacsé, puisque le Pacsé était voté l'année d'avant. J'ai adoré ça, le côté réflexion. Bon, moi, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé dans ces études-là de droit la réflexion, réfléchir à un sujet juste pour y réfléchir. J'avais conscience de ça, que j'aimais bien ça. Et en fait, en cours de mémoire, ma directrice de thèse m'a dit « Bon, c'est intéressant, il faut poursuivre, poursuivre. » Alors là, on est un peu flatté en disant « Très bien, poursuivre la thèse. » Ouais. Bon, mais en même temps, je savais que je voulais être avocat. Je ne faisais pas un mémoire pour devenir prof. Je voulais être avocat. Et d'ailleurs, je lui ai dit « Bon, très bien, mais moi, de toute façon, je passe le CRFPA à la fin de l'année. Donc, la thèse, il faudra faire les deux, alors. » Et ma directrice de thèse, avec le bagou qui la caractérisait, m'a dit « Il n'est pas question qu'on vous donne une allocation pour engraisser le barreau. Donc, vous devrez choisir. » Et je précise qu'aujourd'hui, ça se fait plus. J'ai entendu, bon, maintenant, on ne nous oblige plus à choisir les thésards. D'ailleurs, on les lance plus dans les thèses de 6 ans, les thèses universitaires. Comme moi, j'en fais encore partie. On disait, mais non, allez-y, il faut faire 500 pages. Et c'était une vraie thèse académique. Bon, j'ai adoré le travail, mais c'est une vraie thèse académique. Et donc, à la fin du DEA, j'ai présenté mon projet de thèse à la commission, mais tout en passant les épreuves du CRFPA. Et puisque ma directrice de thèse est venue me chercher à la fin d'une épreuve, de l'amphi pour me dire c'est bon, vous avez l'allocation, donc il faudra choisir. Donc vraiment, j'ai passé mes épreuves en me disant mais en fait je l'ai fait, mais je l'ai fait pas bon, et j'ai choisi. Donc j'ai eu l'examen d'entrée au CRFPA, mais j'ai choisi de ne pas rentrer au CRFPA en me disant bon allez, je lance ma thèse, parce que l'idée même, alors j'avoue, l'idée d'être payé pour réfléchir, je trouve ça extraordinaire, même si clairement le statut de thésard n'est certainement pas un statut qu'on prend pour le confort matériel, hein, c'est affreux. Mais j'ai trouvé extraordinaire de me dire que mon vrai travail est l'aide de réfléchir. Et donc, je me suis lancé dans la thèse sans jamais renoncer à devenir avocat. Et même d'ailleurs, je suis rentré à l'école d'avocat avant d'avoir soutenu, parce que je trouvais ça un peu long. Donc, j'ai fini la thèse avec l'école d'avocat et voilà.
Et du coup, votre sujet de thèse, c'était toujours le patrimoine et le Pacs?
Alors, c'était plus large en droit de la famille. C'était l'intention. Alors, c'était pompeusement en latin, l'affectio copulae. C'était l'intention de vivre en couple. Donc c'était sur la notion du consentement dans la création et la dissolution du couple, avec un bon développement sur la personnalité morale du couple, enfin des choses très académiques. J'ai adoré l'exercice, même si la thèse n'était qu'une grande souffrance, mais j'ai adoré l'exercice de réflexion. Mais comme j'ai adoré la refermer 6 minutes après la soutenance, et à basculer immédiatement dans la carrière d'avocat.
Oui, oui, non, mais j'imagine que de toute façon, après, on vomit son sujet, quoi. On peut plus le voir en
J'ai essayé 2-3 fois de relire les conclusions, mais c'est-à-dire que c'est un niveau, le doctorat. Je ne vais pas dire qu'on l'a plus après, mais je pense que si. Je pense que j'aurais jamais autant réfléchi. Et, Et c'était surtout le monde qui allait éclater. Moi, j'avais adoré réfléchir, mais là, je voulais faire autre chose. Je ne dis pas que je réfléchis plus en tant qu'avocat, mais je voulais exercer. Ça, c'était très clair.
Et juste pour revenir sur cette thèse, c'est étonnant parce que le sujet fait pas du tout juridique.
Non, mais en même temps, le droit à la femme, c'est ce que beaucoup de gens, même parfois, pensent un peu du droit de la famille. Le sujet était très droit de la famille. Et finalement, le droit de la famille, c'est extrêmement juridique. Et donc, c'était une très belle thèse. Enfin, je ne parle pas de la qualité, mais de la réflexion de concepts de droit civil. J'ai beaucoup utilisé des concepts de droit civil, effectivement. Le consentement, le contrat.
Il y a des personnes qui... Enfin, je ne connaissais pas cette réputation du droit de la famille comme n'étant pas du vrai droit ou pas du droit. Un petit peu comme le droit pénal.
Moi, n'étant pas du tout pénaliste, bon, je vois ce que vous voulez dire, mais je pourrais pas faire la comparaison, parce que moi, je ne suis pas pénaliste.
Parle que de la réputation.
Oui,
hein,
la réputation, j'ai bien compris.
Il y a beaucoup de technicité.
Ah oui, j'ai bien compris. Oui, ouais. Moi, justement, pour moi, le droit pénal est un monde à part, mais non pas parce que c'est pas du droit, mais parce que c'est un droit à part pour lequel il faut particulièrement être spécialiste, j'imagine. Bah, le droit de la famille, d'ailleurs, moi-même, quand j'ai fait les études et quand j'ai commencé, donc j'ai fait cette thèse en droit de la famille, donc j'adorais la matière, mais quand j'ai exercé, j'ai cherché en droit économique. Parce que je me suis dit, si ça se trouve, à exercer, c'est pas du tout intéressant. J'ai adoré me prendre la tête pendant des mois sur des notions, mais peut-être que divorcer les gens, c'est vraiment chiant pour dire les choses clairement. Et donc, je suis rentré dans un cabinet de droit immobilier pendant quelques mois. Bon, là, c'était une première collaboration, comme beaucoup, horrible.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette première collaboration horrible?
Ah bah, franchement, je pense avec le recul, c'était du harcèlement moral, avec maintenant ce qu'on ose dire. Mon patron rentrait dans le bureau tous les soirs à 20h en disant « Il est 20h, on peut y aller ». Et quand à 9h05, on n'était pas au cabinet, j'avais un texto. Je me souviendrai toujours, donc pourtant ça a duré 6 mois, je me souviendrai toujours, je donnais des TD, puisque qui dit thèse dit enseignement, et ça j'avais tenu à garder ce pied à l'université. Enfin, j'ai gardé deux choses de la thèse, les TD que j'ai continué à faire quelques temps, mais que la collaboration m'a fait arrêter, parce que autant enseigner à la fac, rester avec les étudiants, discuter avec les étudiants, c'était génial. Autant là, regarder l'heure en disant faut que j'aille au cabinet, et corriger les copies le dimanche soir parce qu'en journée, on n'a pas le temps parce qu'on a les dossiers. C'était plus du tout le même plaisir. Donc vraiment, j'ai arrêté à cause de l'exercice. Et le deuxième truc que j'ai gardé, c'est l'abonnement à la revue trimestrielle de droit civil que j'ai gardé pendant très longtemps, que j'ai résilié genre il y a 1 ou 2 ans quand j'ai constaté que j'avais les 3 dernières années encore sous blister et que bon, bah là, il fallait arrêter. Mais donc, non, le cabinet, donc je donnais encore des TD et vraiment un hasard de circonstance, le premier lundi, j'avais été allé le lundi matin, je me souviens, le premier lundi des vacances scolaires de Noël, donc forcément j'avais pas de TD, mon réveil ne sonne pas, je sais pas pourquoi. Bon, mon réveil ne sonne pas, bon, j'avais pas de TD donc c'est pas grave, mais du coup je me lève pas à l'heure normale pour aller au cabinet. Et à 9h05, je reçois un texto de mon patron qui me dit « Il n'y a pas de TD aujourd'hui, je pense, j'ai un programme pour vous ». Et ça, plus me faire revenir au cabinet, par exemple, après des heures de formation. J'allais en formation à la commission permanente de 17h à 19h. On revenait au cabinet. Et puis
rattraper les heures.
Parce que c'est pas fini la journée. Et il est 20h, on peut y aller. Je vous assure, moi, m'a donné des périodes difficiles. Alors, comme j'ai quand même un tempérament très... qui se soumet pas facilement à l'autorité. Le but de ma journée était de partir à 8h-5, mais pas juste pour l'embêter, mais pour me dire que j'avais la maîtrise. Et donc, j'avais tout le temps des réflexions. Et je suis parti. Et le jour où je suis parti, le dernier jour, donc je finis mes dossiers. Donc, il se trouve que j'étais parti vers 17h30. Et par politesse, je lui dis, monsieur machin, j'ai fini, je peux y aller. Il me dit, attendez, dans tel dossier, est-ce que vous pouvez écrire tel truc? Il m'a fait rouvrir un dossier. J'avais fermé mon ordinateur, tout, à 17h20 du dernier jour, pour écrire 3 lignes que j'ai fait comme un con. Mais voilà, donc ça, première collaboration. Donc, je suis resté 8 mois, mais très difficile. Et donc après, j'ai trouvé une autre collaboration dans un cabinet chez Pechner Associés, donc où j'ai été très très bien. Mais là aussi en droit des affaires. Voilà, là aussi. En fait, ce qui est amusant, c'est que pendant mon grand stage, donc j'ai fait mon grand stage, enfin mon stage de fin d'études, auprès de Catherine Palais-Vincent, donc qui avait en charge le département droit de la santé pour lequel elle est très connue, mais aussi droit de la famille. Donc j'ai fait mon stage en droit de la famille. Et pendant ce stage-là, je me suis beaucoup occupé de l'organisation d'un colloque et j'ai fait la connaissance d'Elisabeth De Flers, donc qui était l'associée du cabinet Pechnard en droit de la famille. Et j'avais postulé auprès d'elle quand même. Et puis elle m'a dit, non, il n'y a pas de place. Bon, moi, très bien. Je me suis dit, de toute façon, droit économique, allez, je fais du droit économique, première collab. Et finalement, quelques mois après, comme quoi, je dis aux jeunes... aux jeunes qui débutent. Un mail envoyé auquel on vous répond, bah écoutez, j'ai pas de place, mais peut-être que j'en aurai plus tard, je reviendrai vers vous. Ça peut servir parce que plusieurs mois après, Elisabeth De Flers a répondu à mon mail d'il y a de plusieurs mois avant où elle m'avait dit, bah non, il n'y a pas de place, en disant, écoutez, une place se libère, mais en droit des affaires. Et moi, j'étais toujours dans cette optique-là. Allons-y, faisons du droit des affaires, mais pas parce qu'il faut faire du droit d'affaires, mais ça m'ouvrira. Parce que déjà, je développais en droit de la famille. Mon premier dossier en droit de la famille, je l'ai ouvert à mon premier mois de collaboration. Pour des potes de potes, mais c'était du droit de la famille. Et donc, je suis rentré chez Pechnard Associés pendant 2 ans, en droit des affaires, où j'y étais très bien.
Et donc là, droit des affaires, vraiment, droit des sociétés,
droit commercial général, je faisais, avec le recul, alors que pourtant j'étais pas spécialiste, mais bon, j'ai fait un peu de bail commercial, mais j'ai fait du contentieux général, commercial. Et moi, j'étais très bien, une équipe bien, bon, j'étais un cabinet d'une vingtaine d'avocats, avec une bonne ambiance. Et puis j'ai trouvé, moi j'arrivais à développer, alors c'était pas facile parce qu'il y a ce côté on peut développer mais on peut pas. Je me souviens que mon boss, qui se reconnaîtra peut-être et que j'embrasse très fort, mais rentrait dans mon bureau en faisant mine d'avoir une crise cardiaque quand il voyait que j'avais un dossier perso ouvert sur mon bureau, parce que comme je vous ai dit, bah moi c'est pas facile pour moi de me soumettre à l'autorité, la contrepartie, enfin mon dossier perso était ouvert sur mon bureau, je n'ai jamais caché mes dossiers perso. Et à la fin de l'année, quand il y avait un petit entretien, alors ça va, la clientèle perso, j'hésitais pas à dire oui, ça va. Oui, je développe ma clientèle perso. Mais donc, je fais ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, bon, là, j'avais un petit rapport un peu compliqué avec l'autorité. J'ai changé de cabinet. J'ai pris une nouvelle collab dans un petit cabinet aussi en droit immo et droit d'affaires. Mais en réalité, donc j'avais presque 3 ans de barreau. J'avais déjà trop de dossiers perso en droit de la famille. Je me rendais bien compte que quitte à être autonome, parce que j'étais très autonome pour le coup dans le dernier cabinet, quitte à être autonome, autant travailler pour moi. Et en fait, je me suis lancé un peu comme ça, parce que, pour le coup, chez Pechnard Associés, dans leurs locaux, un bureau se libérait. Et comme j'avais gardé des très bons contacts, je me suis dit, mais en fait, s'installer en revenant dans les locaux où il y a tous mes copains, où juste je suis indépendant, c'est l'occasion. Donc, c'est la libération, c'est la disponibilité du bureau qui a fait le truc. Et donc là, je me suis lancé. Et pendant 2 ans, j'ai fait un peu de droit immobilier que j'avais gardé à côté du droit de la famille, un petit peu de contentieux des affaires, un petit peu comme ça. Et vraiment, un jour, ça m'a pris, mais vraiment le matin en me levant, je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre de faire autre chose sur la famille. Maintenant, je suis assez grand pour assumer que, en fait, j'aime ça. En fait, c'est vraiment très intéressant à exercer. Et vraiment, du jour au lendemain, presque là pour le coup, de façon pas très professionnelle, j'ai indiqué à tous mes clients que je réorientais mon activité et que donc j'ai transmis mes dossiers qui n'étaient pas en droit de la famille à d'autres confrères.
Donc vous aviez quand même des dossiers en droit des affaires pour
j'en avais un petit peu gardé. Ouais. Je faisais pas mal de recouvrement de créances. Et j'avais un petit peu de copro que j'avais gardé de mon premier cabinet. Mais voilà. Mais donc, ça fait maintenant 10 ans que c'est absolument exclusif en droit de la famille.
Vous dites, j'ai fini par, entre guillemets, assumer que j'aimais ça et que je trouvais ça intéressant et tout. Est-ce que au démarrage, ce détour vers le droit des affaires, c'était une histoire de je suis pas sûre que ça m'intéresse, ou est-ce que c'était aussi, je sais pas moi, tous les stéréotypes autour du droit de la famille, un milieu, mine de rien, perçu comme très féminin.
Ah bah, très féminin, il est très féminin.
Est-ce qu'il y avait ça aussi qui avait un impact, ou est-ce que c'était vraiment plus la crainte ouais.
Alors initialement, c'était vraiment la crainte de dire, bah, ça se trouve, c'est pas intéressant. Et en fait, c'est la crainte liée à ce qu'on s'en disait à la fac et à ce que disait, quand on disait, qu'est-ce que tu veux faire toi ? Je me souviens qu'à l'école d'avocat, j'étais le seul de ma promo à Versailles à dire que je voulais faire du droit de la famille. Et quand on me demandait pourquoi, enfin, c'était difficile même d'expliquer. C'était difficile. Et parfois, j'en venais à des positions un peu caricaturales. Je disais, ah, mais moi, je veux pas faire ce métier pour l'argent. Donc, je fais le droit de la famille. Bon, alors, 10 ans après, c'est faux. Alors, d'abord, on peut le faire pour l'argent. On en parlera peut-être. Moi, je trouve ça peut-être moins facile en droit de la famille qu'en d'autres matières. Mais en toute autre cause, on peut très bien assumer qu'on veut faire de l'argent en faisant le droit de la famille. Ça, c'est tout à fait possible.
Puis, 13 ans plus tard, du coup, j'imagine que le fait d'avoir été le seul à vouloir faire du droit de la famille à cette époque fait que du coup, tous vos copains de promo vous envoient les clients en droit de la famille.
C'est indéniable. Alors, c'est indéniable. Pour moi, je considère qu'aujourd'hui, ma source principale de dossiers, c'est les confrères. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Bon, moi, on en parlera peut-être. Moi, j'ai un exercice assez tourné vers les confrères. J'aime beaucoup ça, le rapport interne, donc des associations, pas le Conseil de l'Ordre, ou pas le Conseil de l'Ordre, parce que ça me semble être encore une montagne d'investissement. Même si ça doit être passionnant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ça, donc j'ai pas mal de liens de réseau. Et oui, la plupart de mes dossiers continuent à venir de confrères, mais notamment de confrères de l'époque de l'école d'avocat. Ouais.
Comment ça s'est passé quand vous vous êtes installé ? Donc je comprends que vous aviez déjà... Vous vous souvenez à peu près combien de chiffre d'affaires vous faisiez à l'époque?
Oui, j'étais proche de... Alors, en chiffre d'affaires annuel, je ne sais pas, mais je sais que j'avais à l'époque une rétrocession. Donc c'était en début 2012. Une rétrocession qui était, je crois, à 3007 hors taxe. Et je sais que j'atteignais à peu près... je doublais presque. En gros, je devais 5 ou 6 000 euros par mois. Et dès le premier mois, enfin ça c'est fou cet appel d'air quand on dit que quand on s'installe il y a un appel d'air. Enfin dès le premier deuxième mois, j'ai tout de suite doublé ma rétrocession. Donc en fait je n'ai jamais baissé de niveau de vie. J'ai tout de suite eu ce que je gagnais avant plus même ce que je gagnais avec mes dossiers perso. Donc en fait ma première année de collab d'installation, je me souviens. Mais même aujourd'hui, je crois que c'était ma meilleure année avec soudainement plus d'argent qu'avant et trois fois moins de travail puisque j'avais lâché le cabinet. C'était extraordinaire. Ce sentiment extraordinaire.
Et donc, est-ce que c'est posé à un moment la question de « Ok, maintenant, comment je développe ? Comment je fais évoluer tout ça ? Ouais, comment... »
Je touche du bois, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir eu, jamais dans ma carrière, ou alors si, c'est assez récent, le côté développement est assez récent. Mais les premières années, peut-être que c'est assez propre pour le coup aux matières type droit de la famille, peut-être que le droit du travail, des choses comme ça, c'est la même chose, mais ça vient assez facilement. Au début, le bouche à oreille, c'est les proches. Bon, assez vite, on s'écarte des proches et les clients. Comme on brasse beaucoup de monde en droit de la famille, par rapport peut-être à un cabinet d'affaires qui a peut-être moins de clients parce que ça rapporte plus, on est quand même obligé d'avoir tout le temps du monde. Donc en fait, on a beaucoup de passages et ça s'est toujours assez bien développé. J'ai donc assez vite développé un réseau dans la profession, qui fait que on s'envoie des dossiers, les clients envoient des dossiers. J'avais toujours eu une petite activité associative, donc ça fait venir du lien. Donc je dirais que j'ai pas eu beaucoup d'actions de développement dans mes premières années. Et ça, c'est une préoccupation qui vient depuis peu de temps en fait.
Et qu'est-ce qui a changé ?
Pourquoi c'est venu là ?
Ouais.
Alors d'abord, je pense que l'évolution du cabinet entraîne aujourd'hui une obligation de développement qui est plus importante que quand j'étais tout seul. Quand j'étais tout seul, j'avais moins de besoins. Aujourd'hui, maintenant qu'on est trois, alors on est trois parce qu'il y a plus de clients, mais aussi il faut plus de clients parce qu'on est trois, rend nécessaire d'avoir des clients et un certain volume parce que les locaux, les charges, enfin voilà, il y a cette préoccupation. Et puis, la conscience aussi que j'avais envie, aujourd'hui, après maintenant 15 ans de barreau, d'atteindre un certain niveau de vie, c'est une préoccupation assez nouvelle pour moi. J'ai longtemps fait le métier, alors pas, comme je disais tout à l'heure, « Ah, mais j'ai fait le métier pour la beauté du métier, je veux pas d'argent. » Non, mais bon,
Je
pense qu'il reste, ça va. Et ce qui est toujours le cas, franchement, je cherche à développer pour pouvoir vivre comme je l'entends, mais pas pour avoir le max possible. Mais donc, depuis quelques années, l'idée que, quand je me compare, parce que je me compare beaucoup, ce qui est pas forcément une bonne chose, mais je devrais faire un meilleur chiffre d'affaires. Dans une structure comme la mienne, on devrait atteindre un chiffre. C'est ce qu'ils se disent. On devrait atteindre, vous êtes trois, vous devriez faire tant. Bon, le sentiment qu'on n'est pas au niveau, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Et donc, je commence à m'intéresser beaucoup plus à la dimension économique du cabinet. Mais vraiment, depuis 2-3 ans. C'est devenu un critère d'orientation de mon activité qui n'était pas avant. Et donc, outre le fait que je m'intéresse aux outils de gouvernance du cabinet depuis peu de temps, je m'intéresse à la nécessité de développer. Et donc, les actions de communication, c'est beaucoup de la communication pour le droit de la famille parce que je ne peux pas beaucoup aller démarcher les futurs divorcés. Ça, c'est assez récent. Donc en fait, c'est un changement de dimension. Avant, c'était ma petite activité, c'était ce que je fais au quotidien, ça vient comme ça, et maintenant c'est devenu une entreprise.
Je trouve que c'est intéressant ce que vous dites sur ça se développe et ça se développe bien et ça croît et on atteint un certain niveau de confort et du coup à partir du moment où on commence à se structurer, ça apporte du confort organisationnel parce que on a une collaboratrice ou un collaborateur qui fait des choses pour nous et qui nous permet de dégager du temps pour d'autres choses, etc., etc. Mais ça vient du coup aussi avec résultat, il faut des bureaux plus grands parce qu'il faut aussi un bureau pour son collaborateur et puis ça fait ça fait plus de charges de bureau plus la charge fixe du collab en plus de sa propre rémunération et de je sais pas quoi d'autre et en fait résultat ça crée une préoccupation qui n'existait pas avant. Mais avant, je ne me posais pas la question d'atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires. Et puis en fait, maintenant, je me pose cette question et ça devient presque une source de stress.
Ah mais ça devient une source de stress. Franchement, je me suis souvent dit que est-ce qu'on n'est pas mieux tout seul ? Alors, c'est évidemment pas aussi facile parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit trois, être un cabinet avec une équipe, c'est déjà en soi une source de satisfaction. Ça apporte quelque chose d'être à trois, de manager et maintenant donc de décider à deux. C'est une expérience qui se justifie à elle-même. En elle-même.
Vous dites de décider à deux, juste parce que.
Oui, pardon. Alors parce qu'en
vous
fait,
vous avez associé votre collaboration.
On vient de s'associer, donc c'est pas encore comme ça a mis 2 ans à se décanter entre nous, mais à partir du moment où on a dit allez c'est parti, on a fait ça en 2 mois, donc en fait on n'est pas du tout prêt au point de vue matériel, donc il n'y a pas eu beaucoup de communication, mais en tout cas ça y est c'est fait, ça va être communiqué plus officiellement.
Non mais bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que vous dites maintenant on est deux à décider tout ça.
Voilà, et donc ça en soi c'est une expérience intéressante, donc vraiment je suis contente d'en être à ce stade là, mais au point de vue tranquillité d'esprit et même au point de vue niveau de vie, là, j'ai l'impression que je crois que j'en sors là, mais je viens de passer plusieurs années à me dire, mais attends, je suis plus stressé que quand j'étais tout seul, je gagne moins d'argent que quand j'étais tout seul. Alors, j'ai pas divisé par 3 manières, sinon je me poserais des questions, mais avant, tout ce qui tombait était dans ma poche et je payais un demi-bureau, point final. Et donc, il y a une période d'investissement peut-être, et qui, je croyais qu'elle serait courte, mais en fait, elle est longue, cette période d'investissement. Pendant laquelle une rentabilité purement économique et purement ça y est, je travaille moins. Je travaille moins, ça n'arrivera jamais, je pense.
Moins de certains types de travaux dans certains types de dossiers, quoi.
Oui, mais encore, comme je suis encore à un stade de ma carrière où moi j'aime ça, faire les dossiers encore, je ne cherche pas du tout à ne plus faire les dossiers. Donc, du coup, je m'en garde pour moi, sauf que j'ai autre chose à faire que les dossiers. Donc, en fait, les dossiers que je garde pour moi, c'est difficile de les traiter parce que justement, je les traite tout seul. Mais là, il y a une période de plusieurs années, je dirais franchement de plusieurs années, entre le confort de l'exercice purement individuel et le confort que je devine maintenant d'une équipe et d'un cabinet qui tourne. Il y a eu plusieurs années de stress, de construction et d'investissement qui sont vraiment l'équilibre coût-avantage n'est pas évident. À court terme.
Et quand vous vous êtes engagé dans cette voie de vous dire « Ok, je fais un premier recrutement et je commence à me structurer », est-ce que vous aviez conscience que c'était de l'investissement ?
Alors, pas du tout, parce que là aussi, j'ai une chance, je sais pas si c'est une chance, mais les choses se sont faites sans trop que je réfléchisse et donc du coup, je les ai pas subies dans le sens négatif du terme, mais tiens, une chose arrive et donc je m'adapte. Donc, je me suis installé vraiment parce qu'il y avait un bureau qui se libérait et que j'avais des clients, je me suis dit « Oh, allez, on s'installe ». J'ai pris une première stagiaire en me disant tiens, c'est vrai, on m'envoie un CV, ça va être sympa. Et il y avait de la place chez Pechner, toujours il y avait de la place pour les stagiaires, les pauvres, c'était au sous-sol, avait pas beaucoup de lumière. Mais j'ai pris quelqu'un, et cette première stagiaire, c'est mon associé d'aujourd'hui. Et en fait, ça se passait très bien. Le stage est fini, l'école est finie, elle va prendre une collaboration. On reste ensemble. Vous êtes ma collaboratrice, c'est parti. Et on ne s'est jamais quitté. Et pareil avec mon deuxième collab. Donc j'ai beaucoup de chance parce que donc il y a 4 ans, on s'est dit avec Hélène, peut-être qu'il faudrait qu'on travaille avec quelqu'un d'autre. Allez. Antoine est venu comme ça, un stage, et puis il est resté. Et donc on a grandi comme ça. Donc en fait, je me suis pas dit il faut investir. Je me suis pas dit j'ai besoin de quelqu'un. C'était soit elle part. Alors quand même, j'avais du travail. Si j'avais pas eu de travail, elle serait partie. Mais j'avais du travail pour deux. Ça se passe très bien. Restez. Hop, on y va. Et donc on passe comme ça en collab. Et pareil pour Antoine. Et c'est vrai que j'ai de la chance parce que donc ça fait 8 ans maintenant que je travaille en équipe. Mon équipe n'a jamais changé. Enfin,
elle a
évolué, mais pour l'instant ils sont là tous les deux. Et donc elle continue à se stabiliser. Donc non, je n'ai pas conscience que c'est de l'investissement. J'ai jamais eu la réflexion de je dois investir pour grossir, c'est venu comme ça, très bien, mais c'est quand même un investissement dans le sens où c'est pas immédiatement rentable, c'est pas immédiatement confortable, parce que c'est pas une question d'argent, c'est pas immédiatement confortable, parce que quand même, aujourd'hui, je stresse pour trouver du boulot pour 3, et non pas du boulot pour 1. Et franchement, c'est un vrai gros stress de l'exercice. Alors c'est une stimulation, c'est plein de choses, mais c'est quelque chose de présent dans l'exercice, devoir trouver des clients.
Ouais, alors que ça l'était pas avant.
Beaucoup moins.
Ouais. Et vous dites, et aujourd'hui, je commence à toucher du doigt ce que ça m'apporte et le retour sur investissement. Qu'est-ce que vous commencez à toucher du doigt, justement, comme retour sur investissement ? Qu'est-ce qui, ce début d'atterrissage, à quoi ça ressemble comme retour sur investissement ?
Alors, des choses très terre à terre. Après avoir mis le nez dedans, avoir pris une aide extérieure, donc dans un petit cabinet de une sorte de direction des affaires financières externalisées extérieures. Je commence à mieux gérer économiquement, donc effectivement à dégager un chiffre d'affaires avec les mêmes personnes qui pourtant ont un chiffre d'affaires différent de l'année dernière. Donc ok, ça c'est une première chose. mais à avoir le sentiment que le cabinet tourne sans moi ou peut tourner sans moi, c'est très agréable. Alors moi, j'ai aucun mal à déléguer. Je suis très content qu'on n'ait pas besoin de moi. Alors, je suis de temps en temps très content de voir que je peux encore apporter des choses dans un dossier. Parce que parfois, je me dis, bah, c'est pas possible, je ne sers plus à rien. Mais c'est très plaisant de. Surtout, je pense, en ayant eu des collabs depuis leur stage, de voir l'évolution. Enfin, c'est quelque chose. Je ne veux pas faire le paternaliste, mais c'est quelque chose de très agréable de voir une équipe évoluer et de se dire, bah, on a fait évoluer des gens, ils ont évolué avec nous. Et du coup, maintenant, clairement. De moins en moins relire, de moins en moins, en tout cas relire, mais plutôt de moins en moins intervenir dans le dossier. Donc de voir l'activité se développer un peu toute seule, au point de vue, exister toute seule, de les voir prendre des initiatives tout seul, enfin de voir le cabinet vivre. Le cabinet n'est plus uniquement moi depuis peu de temps, et c'est assez agréable aussi parce que c'est assez confortable. Je commence à me dire que j'ai certaines choses sur lesquelles j'ai moins besoin de mettre ma patte. Au moins besoin de m'investir. Ça a une petite autonomie. Ce cabinet commence à avoir une petite autonomie par rapport à moi, qui est assez fascinante à regarder.
Combien de temps ça a pris ?
Hélène était. Moi, j'étais tout seul de 2012 à 2015. Elle a commencé ses stages en 2015, elle a arrêté seulement en 2016. Et je dirais que.
5-6 ans.
Ouais, 5-6 ans de vrai. Difficile. Moi, je trouve ça difficile. Enfin, agréable, hein, sinon j'aurais arrêté, ou je serais revenu en arrière. Mais justement, il y a cette question-là. Ça a été difficile justement de me dire, mais ça se trouve, ce qu'il faudrait, c'est que je revienne, c'est que je baisse la voilure, qu'on soit à nouveau deux. Et la pression, j'ai eu énormément de mal à imaginer, d'ailleurs je ne l'ai pas fait, est-ce que je l'aurais fait si j'avais raisonné différemment, je ne sais pas, mais à imaginer me séparer d'un collab pour réduire le stress, mais finalement ne chercher plus que du travail pour deux, réduire la voilure, donc réduire le stress pour peut-être gagner plus. C'est quelque chose que j'ai envisagé, mais qui m'a semblé contre nature. Alors aujourd'hui, je suis très content. Peut-être qu'en écoutant ce podcast, Antoine va se dire, mais à un moment ou à un autre, mon poste a été menacé. Mais il n'a pas été menacé par ton travail, Antoine, sache-le. Mais par peut-être l'envie de ne plus gérer trois personnes. C'était trois dont moi. Et voilà, et aujourd'hui ça va.
Est-ce que vous avez trouvé de l'aide sur ces sujets de stress et tout ? Est-ce que vous êtes fait aider ?
Oui, je me suis fait aider. Alors j'ai fait plusieurs séances à chaque fois, mais avec deux coachs. L'un qui s'identifie spécialisé avocat et un autre qu'on m'avait recommandé. C'était utile et en même temps, je ne sais pas si c'est ça dont j'ai besoin parce que c'était... utile sur le moment, chaque séance était « Ah tiens, il y a ça qui est intéressant, tiens ok ». Mais je trouvais que chaque séance se terminait par « Mais non mais Florent, franchement vous êtes un exemple pour d'autres de mes clients, ça vous réussissez très bien parce que j'adorais manager ». Donc je trouvais qu'on me disait trop « En fait ça va très bien ». Or quand on vous dit « Ça va très bien », mais que vous ne vous sentez pas bien, pas dans le sens « Je suis pas bien psychiquement, bon après ça j'ai mon psy pour ça et ça allait très bien ».
Oui, vous veniez pas pour qu'on vous caresse dans le sens du poil, vous veniez pour bouger ce qui n'allait pas quoi.
Bah oui, si y a tout qui va bien, mais que moi tout pour aller bien, mais que moi je trouve que ça ne va pas. Je ne suis pas satisfait de la façon dont je travaille, parce que c'est vraiment ça la question. Les clients viennent, les dossiers viennent, on a un taux de... non pas de réussite parce que ça veut rien dire, mais de satisfaction des clients que je trouve moins satisfaisant. Donc je me dis bon bah ça va et je suis très content de la façon dont on travaille, enfin de la façon du fond de notre exercice, de la façon dont on traite la matière. On a des exigences de qualité, je trouve que on s'est mis dans une certaine gamme en termes de prestations qui me correspond, mais pour autant ce côté, on est content de venir travailler, ou en toute état de cause, du bien-être au travail, et ça va, et le travail n'est pas qu'une source de stress, ça n'allait pas, parce que ça devient, pendant plusieurs années, ça n'a été qu'une source de stress, et encore une fois, sans aller jusqu'à, du coup, je ne suis pas fait pour ce métier, ou je ne veux pas. On sent que c'est ça qu'on a envie de faire, mais qu'on ne trouve pas les bons rouages.
Voilà.
Et les deux coachs que j'ai vus, qui m'ont tous les deux apporté quelque chose, j'ai fini par arrêter parce que j'entendais trop. Mais en fait, c'est super ce que tu fais, Florent. Non, vraiment, t'es super. T'es un super patron. Bon, ça se trouve, c'était vrai. Hein. Peut-être qu'il faut savoir l'entendre. Mais je l'entendais. Et en même temps, moi, j'étais pas bien dans mes pattes. Donc ça m'a aidé. Mais pour autant, je crois que c'est le temps. Oui, le temps, un peu d'années en plus où je pourrais pas expliquer exactement ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, bon, ça va. Et encore, il y a plein de choses. Je vous dis là, ça va, mais il y a plein de choses qui sont encore sur le chantier. Mais bon, ça finit par aller avec l'expérience.
C'est quoi les chantiers en ce moment?
Alors là, le chantier, c'est transformer le cabinet donc en vrai cabinet avec des associés, c'est-à-dire que ce soit pas, parce que notre grande crainte avec Hélène, c'est que ce soit une super collab et que ça reste mon cabinet. Et là, franchement, en 3 semaines depuis le 1er janvier, enfin, ça a déjà changé. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire que je vois bien qu'elle elle a pris une autre casquette dans la gestion des affaires du cabinet. Et puis, pour la première fois depuis le 1er janvier, il y a certains dossiers qu'on a ouverts qui ne passent même plus par moi. C'est-à-dire qu'avant, bah, j'ai quand même tous les dossiers dans lesquels je suis, j'apparais et elle apparaît en tant que collab, même si c'est elle beaucoup qui traite.
Et là, sur les conclusions, il n'y a plus votre nom.
Ah, il n'y a plus mon nom. Bah, y a plus mon... Non, mais pour l'instant, il n'y a même presque pas encore eu d'acte. Mais rien que le mail de départ ou le premier contact, ce n'est pas « je reçois quoi avec ma collab » et après, n'hésitez pas à parler avec quelqu'un. C'est Hélène qui rappelle. Alors, c'est moi qui, pour l'instant, on m'appelle moi. Donc, je dis, bah voilà, là, j'ai une associée aujourd'hui et c'est vrai que j'ai trop de travail ou elle est plus spécialisée là-dedans. Donc, voilà. Mais bon, les chantiers du jour, donc, c'est faire vivre ce cabinet, cette nouvelle configuration. C'est dégager suffisamment de chiffre d'affaires pour faire autre chose, c'est-à-dire pour reprendre, parce que j'ai fait ça au début, un peu d'activité à côté du cabinet, de team building pour nous, pour faire autre chose. Du confort matériel pour ceux qui travaillent, donc pour moi et Collab, sur le matériel, le bureau, peut-être prendre une assistante, parce que ça, j'en ai pas, et voilà. Et continuer, pour moi, c'est très important, à exercer mon métier en dehors des dossiers. C'est-à-dire, là, c'est ce que je fais avec l'association des avocats droit de la famille, dont je suis président. C'est pour moi une façon d'exercer le métier et la matière, mais sans faire les dossiers. Donc ça, je veux continuer à faire ça. Et puis après, le vrai gros chantier, c'est réapprendre à prendre du temps à titre perso sans culpabiliser. Ça, c'est le gros chantier.
Ça fait beaucoup de chantiers pour cette année.
Ça fait beaucoup de chantiers.
Il y a un truc sur lequel je voulais rebondir et ça m'a échappé. Oui, si vous avez dit, voilà, maintenant, les clients appellent majoritairement le cabinet pour vous. Et puis ensuite, vous dites, bon, j'ai mon associé qui est plus spécialisé ou là, j'ai trop de travail, je ne peux pas vous prendre. Est-ce que vous avez beaucoup de déperditions au moment de la passation de témoin?
Alors, bon, là, notre historique est très, très court. Puisque,
oui. Bon, mais ne serait-ce que sur ces 3 semaines.
Non, pas du tout. Pas du tout, mais je crois que c'est... C'est à nous de mettre le client en confiance, de ne pas faire semblant qu'en fait tout tient qu'à moi. Parce que si on construit une relation avec les clientèles en général, parce que tous les clients qui viennent maintenant viennent par des clients que j'avais avant, donc ils ont entendu parler du cabinet. Si on construit une relation en disant c'est Florent Berdeau qui fait tout, bah celui à qui on dit par contre ce ne sera pas Florent Berdeau qui va traiter, il va avoir le sentiment qu'il est moins bien traité qu'un autre. Or moi, depuis la première journée de la collaboration d'Hélène il y a 7 ans ou 8 ans, c'est le collab qui est en avant dans le dossier. Elle a toujours plaidé ses dossiers, toujours, depuis le premier mois. J'ai bien sûr toujours été là. Et en 8 ans, je crois que c'est arrivé 2 fois qu'un client dise « Ah non, je veux que ce soit vous ». Dans ces cas-là, je ne challenge pas, je dis « Il n'y a pas de problème, mais sachez que ça n'est pas un gage de réussite ». Sachez que je n'ai pas, pour ce dossier-là, de plus-value particulière, et même, parce qu'on travaille différemment, sachez que Hélène connaît mieux les petites pièces du dossier qu'elle pourra ressortir en audience que moi, donc je le fais si vous voulez, mais ça n'est pas... Voilà. Donc je pense que ça se sait de client en client, et que dès qu'on annonce le fait qu'on est en équipe, et que oui, vous venez nous voir, vous venez me voir parce que vous avez entendu parler de moi, mais tout en sachant que c'est pas que moi, non, je crois qu'il n'y a pas de déperdition. En tout cas, j'ai jamais eu aucun client, sauf peut-être un client qui va de la décision va pas et la décision lui plaît pas. Bah alors là, c'est terrible pour les collabs, oui. Ça tombe sur le dos du collab. Alors ça, c'est à moi de dire non, ça n'a rien à voir. Mais non, je pense pas qu'on aura de déperdition. Et là, je suis assez confiant.
Ouais. Bon, en tout cas, sur le petit, sur ces 3 petites semaines de rentrée, voilà. Vous dites que vous vous êtes fait accompagner. C'était sur 2023. 2022-2023 sur les aspects financiers du cabinet.
Ah oui, oui, oui. Même encore maintenant là.
Ouais, ça m'intéresse. Comment ça se passe? Comment se déroule / s'est déroulée la mission? Enfin, même d'un point de vue assez opérationnel.
Donc c'est un cabinet dont j'avais entendu parler dans le cadre d'une formation sur l'avocat et son argent. Et donc, la mission, c'est vraiment une mission de directeur d'affaires financières, de comptable, mais avec vous. C'est-à-dire que c'est pour la première fois de mon exercice, j'ai appris à calculer mes stocks comme un entrepreneur, à faire un business plan, un budget pour l'année, et à consacrer donc des budgets pour telle ou telle opération, et à me dire, OK, bah, j'intègre telle hausse de charge, telle hausse du montant de la rétrocession des collabs. Donc, il faut tant. Et donc, on fait des points. Enfin, c'est la première fois que j'étudiais. En fait, c'est la première fois que j'utilisais des outils qu'on a tous grâce à nos logiciels de gestion, je les ai, mais je n'utilise pas les outils. Alors qu'ils sont pleins d'outils, ces logiciels. Mais donc, c'était avec cette femme une vision très, très entrepreneuriale. Très, vous avez une entreprise à gérer et un business à développer. Et donc, on y va. Sur quelle action il faut, quel levier il faut appuyer et surtout, quel chiffre vous devez regarder. À quoi vous devez faire attention pour pouvoir mesurer votre activité. Et ça, c'est quelque chose qui est... Déjà, on n'est pas formé en tant qu'avocat. Il se trouve que moi, je fais une matière droit de la famille qui ne m'y mène pas toujours. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'affaires de dimension patrimoniale. Donc en soi, traiter d'un bilan d'une société, je sais lire, je sais exploiter. Mais ce n'est pas moi qui construis la société de mes clients. Donc là, être dans la construction du business, c'est assez nouveau et c'est très concret.
Qu'est-ce que les chiffres vous ont appris ?
Alors, les chiffres m'ont appris qu'on ne repart pas à zéro tous les ans, qu'on ne repart pas à zéro tous les mois et qu'on ne repart pas à zéro toutes les semaines et qu'on ne fait pas une mauvaise semaine. Que ça n'est, enfin voilà, ça c'est une vision. Les chiffres et la bonne lecture des chiffres m'ont appris à avoir une vision beaucoup moins microéconomique. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai été déprimé tous les mois jusqu'au 20 du mois. Puisque par principe, entre le 1er et le 20 du mois, on fait moins qu'entre le 1er et le 31 du mois d'avant. Donc j'étais tout le temps, c'est un mauvais mois, c'est un mauvais mois, c'est un mauvais mois, jusqu'à, ah bah tiens, jusqu'à ce que finalement, à la fin du mois, bah en fait c'est un bon mois. Et donc ça, j'ai appris à, en les exploitant mieux, à avoir une meilleure prévisibilité. Et en fait, c'est pas tellement qu'est-ce que les chiffres m'ont appris, c'est quels sont les bons chiffres. J'ai arrêté de raisonner en termes de nombre de dossiers. Alors, je ne raisonnais qu'en termes de nombre de dossiers. J'ai ouvert moins de dossiers ce mois-ci que le mois dernier, c'est que le cabinet se casse la figure. J'ai appris à ne pas considérer qu'un dossier, une fois qu'il est rentré, il compte plus. Alors qu'en fait, il a du potentiel. Il y a des choses qui n'ont pas encore été faites dans ce dossier. Donc, on commence une année avec plein de choses à faire. Donc, j'ai beau être le 15 janvier et ne pas avoir rentré X dossiers, il y a quand même déjà du travail à faire. Donc, ça m'a appris à être plus confiant, à être moins dans le court-termisme.
Ce qui a dû aider aussi au niveau du stress, non ?
Ah bah oui, complètement. j'ai arrêté de faire les comptes, ce type de compte tout le temps, à tout le temps de checker le nombre de dossiers, à tout le temps de checker les honoraires. Et même les honoraires, j'ai arrêté de facturer au fur et à mesure. Avant, je facturais, enfin au fur et à mesure, non, dans l'année bien sûr, mais avant je facturais dès que je faisais quelque chose. Ce qui fait que forcément, quand je faisais pas, quand il y avait trois dossiers dans lesquels les trois dossiers étaient chez l'adversaire et que c'était conclusion, donc moi je travaillais pas dessus, je facturais pas. Désormais, je facture à des moments réguliers du mois ou même non, en fait, le 20 du mois, je fais la facturation. Et donc, il y a des dossiers on l'a pas facturé, il y en a on l'a facturé, mais c'est beaucoup moins microéconomique. Et donc, évidemment, quand on commence à regarder avec un peu de recul, peut-être qu'on peut voir des tendances. Alors, peut-être que je stresserais de voir une tendance baissière, peut-être un jour, mais quand c'est pas le cas sur quand c'est le cas sur 3 semaines, j'apprends à me dire que c'est pas grave.
Et vous êtes sur une facturation à l'heure, au forfait, comment vous fonctionnez ?
Je change de principe à peu près tous les jours. C'est-à-dire que je m'annonce au temps auto-horaire, mais comme beaucoup d'entre nous, ce qui n'est pas un vrai taux horaire, il y a tellement de réductions, de rewriting. Non, j'essaye vraiment de ne pas faire de forfait. Le forfait, je le fais pour certains types d'actes, c'est-à-dire une requête en adoption. Parce que j'ai une niche un peu envers la clientèle homoparentale. Donc, il y a certains types d'actes qui sont pas des formalités dans le fond, mais c'est très, très standardisé. Donc, je sais ce que ça fait. Donc là, je fais des forfaits. Mais sinon, pas de forfaits. En revanche, j'essaye de m'astreindre à bien estimer les budgets, ce qui est très difficile. Vraiment, en droit de la famille, c'est très difficile. En fait, c'est terrible parce que je trouve que c'est une des matières où ça doit être le plus difficile d'estimer le temps qu'on va passer. Mais c'est une de celles dans lesquelles c'est le plus incompréhensible pour les gens de ne pas savoir combien ça va coûter. Enfin, se lancer dans un divorce où on dit, écoutez, parce que si j'avais un vrai discours, je devrais dire aux gens, vos divorces peuvent vous coûter entre 5 et 50 000 euros. Enfin, c'est possible. Alors, a priori, quand même, là, je caricature un peu, on sait, quand il y a du patrimoine, il n'y en a pas. Mais entre 5 et 15 000, c'est tout à fait possible. Or, pour quelqu'un de comprendre comment ça, entre 5 et 15 000, comment ça peut coûter du simple au triple. Donc, c'est très difficile. Donc, j'essaye d'estimer, d'expliquer, mais je fais du temps passé. Après, j'adapte la facturation finale à une réalité, parfois, quand ça fait trop, ou quand c'est pas possible pour le client. Bon, c'est ce que nos obligations déontologiques nous poussent à faire, mais le principe, c'est le temps passé.
Ouais, vous avez quand même une forme de plafond.
Oui, que j'écris pas, mais qu'il y a un moment où c'est plus possible. Enfin, ça dépend. Il y a un moment, il y a des dossiers, il y a des dossiers qui ont crevé les plafonds, mais où vraiment, j'estimais que là, c'était d'une part inenvisageable et que le client est très spécifique. Enfin, il y a des clients dans la famille qui sont très spécifiques, très chronophages, qui l'assument, qui le savent. Bah là, dans ce cas-là, si vraiment vous me demandez d'être présent, d'être à votre écoute à ce niveau-là, alors que ça n'a pas forcément d'apport dans le dossier, voilà, alors c'est facturé. En revanche, il y a des dossiers, ceux où je vais faire le plus de... Bon, ça, je ne vous facture pas. C'est quand vraiment là, j'ai un dossier... Il y a tellement tous les incidents de procédure de la Terre qui sont faits en face. Tous. Alors, j'y suis clairement pour rien, mais le client non plus. Et à un moment, je vois bien qu'en face est utilisé l'arme de « un jour, ce monsieur ne pourra plus se défendre ». Et donc là pour ce type de dossier-là, je vais plafonner. Je vais dire « bon, écoutez, ça, on le fait. » Parce que, alors, j'ai pas non plus le sacrifice dans la peau, mais ça va être un truc qui est pas si difficile que ça. Je vais réutiliser du travail. Bon, ça va me prendre pas trop de temps. Donc, c'est pas un énorme sacrifice. Bah, autant marquer le coup en le facturant pas.
Et comment c'est, comment c'est reçu côté client?
De quoi le principe?
Eh ben, le temps passé, est-ce que vous avez beaucoup de, des clients qui reçoivent la facture le 21 du mois, du coup, et puis ensuite, enfin voilà, comment votre regard de comment ça se passe, quoi?
Moi, je trouve que ça se passe bien. On le voit au taux de contestation.
Oui, clairement.
Non, franchement, les seules contestations que j'ai quelques taxations, c'est des gens qui contestent la facture à la fin du dossier quand on a une mauvaise décision.
Oui.
C'est, franchement, en même temps, je prends ça avec beaucoup de recul, je me dis, c'est très humain, on a perdu, il faut bien qu'il y ait un responsable. Et puis, donc, du coup, soudainement, ce qu'ils ont payé pendant tout le procès, ça leur semble pas... Voilà. Donc, évidemment, en termes de statistiques, c'est très peu de dossiers, mais c'est ça. Après, il peut plus y avoir du... En cours de dossier, des clients qui vont me dire, OK, on en est à temps, on en est à tel niveau, alors que voilà, on était à telle estimation, ou qu'est-ce qui s'inquiète un petit peu, donc on va réaménager ou on va expliquer. Mais franchement, tout est dans l'explication. Moi, je trouve que ça se passe assez bien quand on est clair. C'est difficile d'être clair parce que c'est difficile soi-même d'y voir clair et de savoir vraiment. Franchement, c'est un exercice très difficile de facturer. Mais quand on l'explique. Et quand, bien sûr, on est à l'écoute, si jamais. Alors ça, dès qu'il y a un client qui n'est pas content, qui exprime une insatisfaction, qui exprime une inquiétude, là, tout de suite, bien sûr, je réponds, attendez, ça peut pas rester une difficulté, on en parle, parce que sinon, déjà, j'ai un risque d'impayé, et c'est pas mon but. Et puis, un client qui quitterait le cabinet parce que il y a un problème d'honoraire, bon, c'est une insatisfaction globale, c'est-à-dire que il va pas en retenir un bon critère. Moi, j'aurais travaillé en partie, bon, j'aurais été payé de ce que j'aurais été payé, mais c'est pas le but, non. Mon but n'est pas d'être payé juste la moitié d'un dossier parce que j'en ai fait que la moitié, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc, j'essaie de pas laisser passer les moments, même d'être de devancer un peu quand je sens un client qui fait une petite remarque ou qui met un peu plus de temps à payer. Je prends les devants, je dis qu'est-ce qui se passe, parlons-en, et après je suis assez à l'écoute, assez peu sur la réduction des honoraires parce que déjà je m'estime pas assez cher, mais parce qu'il y a une certaine mon travail vaut ça à minima, donc je réduis assez peu les honoraires.
En revanche, sur l'aménagement,
là je suis très très ouvert sur l'aménagement des honoraires, parfois un peu trop. Mais...
Et vous dites en 2023, vous avez fait un meilleur chiffre qu'en 2022 à nombre de personnes égales dans le cabinet et à peu près charge égale, quoi. Où est-ce que vous êtes allé chercher cette différence?
Dans une meilleure rigueur sur la facturation, c'est-à-dire effectivement quand même un peu moins de rewriting ou un peu plus de le temps à passer, on le facture. Un ajustement des taux horaires de mes collabs. Franchement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça a été un tilt quand on a mis le doigt dessus, mais je pensais beaucoup à mon taux horaire, comme si c'était une sorte de vitrine. Et le taux horaire des collabs était un peu au pif. Alors que bien sûr, c'est eux qui passent le plus de temps. Et donc, je pense que l'un des critères principaux, c'est la révélation du taux horaire de mon collab, qui était beaucoup trop bas pour un travail qui était largement sous-payé, quoi. Et ça, je pense que c'est une cause principale. Et puis après, je crois que là, c'est peut-être aussi pour ça que je vous dis que je commence à toucher du doigt... certains investissements, je crois que là, je viens de passer un gap en termes de clientèle. J'ai le sentiment que la clientèle est, est un peu plus haut de gamme en ce moment, et donc paye plus facilement, ou en tout cas je fais un peu moins de rewriting, ou voilà.
C'est lié au fait que maintenant vous êtes plus proche de 40 ans que de 32. C'est
oh
lié
mais attendez, je suis plus proche des 50 que des 40, ma pauvre amie.
Des 50 que des 40. Oui. Ah mais ça se voit pas. c'est lié à ouais, vous arrivez à identifier ce qui fait ce qui pourrait être à l'origine de cette évolution de la typologie de la clientèle.
Alors bah oui, dès lors qu'on vieillit, on vieillit avec les clients, donc ceux qui venaient me voir, les amis d'amis à 30 ans, bah, ils avaient 30 ans et maintenant ils en ont 46 aussi. Mais y a ça, et puis je crois que je récolte aussi un peu peut-être le fruit de mon investissement dans le barreau, auprès des confrères, une certaine visibilité, peut-être crédibilité qui fait qu'on me recommande à d'autres types de personnes.
Comment est-ce que vous vous êtes investi justement dans le barreau?
Alors...
Comment s'organise votre organisation?
Alors, comment ça, ah bah...
Alors, vous avez parlé de l'association des avocats en droit de la famille.
Oui, voilà. Donc là, ça, c'est mon investissement actuel. Donc, j'en suis président depuis 2 ans. C'est une magnifique association qui existe depuis une trentaine d'années et qui a renouvelé pour la première fois son CA tout il y a 2 ans. Donc, j'en étais déjà adhérent. Et ça, c'est une association géniale de lien entre confrères. C'est vraiment une association d'avocats. C'est pas une association destinée au public, ou c'est pas une association... bien sûr, c'est une association où on réfléchit sur le fond, mais c'est une association de pratique. Et donc, on est en lien permanent les uns avec les autres, et ça, c'est super, d'entraide, avec des outils de forums, d'échanges. Donc, il y a ça. Mon investissement associatif avait aussi commencé avant, donc j'ai fondé en 2018, l'Association française des avocats LGBT, donc c'était la première association d'avocats LGBT en France, et la seule d'ailleurs, alors qu'il en existe dans beaucoup de barreaux dans le monde. Ça, c'était génial, parce que c'était... Bon, évidemment, ça me tenait à cœur à titre personnel, mais la mission de l'association était superbe, et alors, elle a eu un succès d'estime, on va dire, un succès presse. C'est-à-dire qu'on a été bien visible. Le lancement a été très bien. On a eu beaucoup de liens. Mais bon, on s'est pris le Covid comme beaucoup de monde, et donc après un peu de difficulté à rebondir. Et j'ai laissé ma place. Parce que moi je considère que les présidents à vie dans une association, ça c'est fini. Donc un mandat, deux mandats, s'il y a personne, très bien. Mais à un moment, on s'en va. Donc là, moi, j'ai fait un mandat. Et là, l'association, elle a vraiment décollé depuis le mandat actuel, le bureau actuel. Donc ça, c'est
vraiment génial. Qui préside maintenant ?
Claire Sivérac et Guillaume Marquis, donc ils sont deux avocats parisiens. Le reste du bureau et du CA est composé d'avocats aussi non parisiens, parce que c'est une association nationale. Et ils font vraiment un super boulot. Ils sont très actifs, très très visibles. Et là, tant sur le lien entre confrères que sur les activités. Donc ça, c'était un de mes investissements. Et puis, indépendamment j'ai fondé ça ou je suis président de ça, j'étais longtemps adhérent, puis membre du conseil d'administration de l'Institut de droit de la famille et du patrimoine. Donc, c'est aussi une très belle.
Donc, beaucoup via les associations.
Oui, beaucoup via les associations professionnelles. Ouais, ça beaucoup. Tant pour le fond, donc on fait du droit de la famille, que pour. On se réunit tout le temps, on réfléchit. Et moi, j'y ai rencontré. D'abord, c'est grâce à ça que j'ai acquis une petite visibilité. Parce que j'ai pu donner des formations, j'ai pu proposer mon aide, et puis on y rencontre des confrères avec des consoeurs, du coup, puisque vous le disiez, c'est très féminin, donc c'est beaucoup de consoeurs, mais quelques confrères, avec qui on a des vrais liens et de travail, et depuis quelques années, avec la promotion des modes amiables, enfin beaucoup de choses qui sont passées dans le fond de la famille, notamment la réforme du consentement mutuel qui a entraîné les avocats à prendre encore plus à bras le corps ce divorce qui maintenant n'est qu'un divorce d'avocat, et bien à faire équipe avec le confrère. Et moi, depuis 5-6 ans, j'ai vraiment le sentiment de dire, ah, on va travailler avec tel confrère, ah, c'est très bien, et d'être content de voir un confrère en face arriver dans le dossier, et de se dire, ah, on va travailler ensemble. Et je pense que ça se ressent, et ce qui fait que voilà, ça crée du lien agréable.
Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous aviez développé une petite niche sur certaines problématiques de droit de la famille de couples homosexuels. J'ai cru que j'avais mal reformulé la problématique que vous aviez soulevée tout à l'heure. C'est quoi les problématiques de droit de la famille des couples homosexuels?
Ah, c'est une bonne question parce que j'ai monté une formation là, que j'ai donnée de toute une journée sur le mot parentalité. Et ce qui était génial, c'est que les confrères qui ont assisté à la formation, en fait, n'en revenaient pas de découvrir à quel point c'est une technique, un contentieux, alors que c'est le même droit. Donc c'est bien sûr le même code civil, ça l'est encore plus depuis la loi de 2013 sur le mariage, donc c'est le même mariage, c'est le même divorce, c'est un certain pan de la filiation adoptive qui est le même que les autres. Donc c'est le même droit, mais ce sont des situations qui sont distinctes, ce sont des situations de vie sont différentes, et ça entraîne d'abord une sensibilité différente sur les dossiers, et une utilisation en fait différente des mêmes outils. Et donc la spécificité du droit de la famille, du droit de l'homoparentalité, tient dans le fait qu'un des deux parents n'est pas toujours et n'est souvent pas un parent légal. Et donc toute la question, c'est de jongler entre les différents statuts légaux des parents. Et c'est ça qui fait le sel, qui offre aussi des contentieux extrêmement durs, parce qu'il n'y a en dehors de l'homoparentalité, il n'y a pas tellement de contentieux dans lequel un parent va chercher à tout simplement nier la parentalité de l'autre. La nier, dire en fait tu n'es pas parent. Ah, bien sûr qu'en dehors de la famille, il y a des parents qui cherchent à écarter l'autre, t'es pas un bon parent, ça, bon, c'est terrible, mais c'est presque du quotidien. Mais le droit actuel permet à un parent de dire écoute, légalement, tu n'es rien, donc au revoir. Et ça crée des situations qui nous conduisent à utiliser les mêmes outils que dans d'autres dossiers, mais qu'on utilise moins dans d'autres dossiers, et donc ça fait une pratique un petit peu atypique.
C'est-à-dire ?
Alors par exemple, tout le contentieux du droit des parents sociaux, donc en fait il existe dans le code civil un texte qui permet aux beaux-parents de revendiquer un lien avec les enfants, donc c'est on appelle ça le droit de visite des tiers, en fait c'est les personnes qui ont vécu avec l'enfant, donc ça vise le beau-parent. Mais dans le contentieux de droit de la famille homoparentale, c'est le parent qui était là dès le début, mais qui n'est juste pas parent légal. Donc c'est un outil qui est très peu utilisé en droit de la famille général. D'ailleurs, c'est le même outil. La plupart des confrères le connaissent comme étant le texte sur le droit de visite des grands-parents, parce qu'il parle des grands-parents et de tous les tiers. Donc ça, c'est très intéressant. L'adoption, moi j'avais fait un tout petit peu d'adoption avant 2013, évidemment l'adoption est devenue, mais pas que parce que les couples homo veulent adopter, mais parce que c'est le seul moyen d'établir la filiation, et donc on passe par là, et j'ai découvert depuis quelques années, nous avons découvert, les avocats qui faisons ça, le contentieux de l'adoption, c'est les adoptions contre les parents, ça c'est contre le refus d'un parent, ça c'est très intéressant, et c'est une mission du juge, je trouve extraordinaire, parce que le juge dans l'adoption va créer la famille. Et il doit se poser la question s'il faut créer la famille alors qu'un des deux parents ne veut pas de cette famille. Enfin, c'est passionnant. Voilà.
Merci pour cette présentation.
Mais je vous en prie.
Qu'est-ce que vous dites que, si je recolle avec le début de notre conversation, que c'est que très récemment que vous vous êtes mis plutôt dans une démarche assez proactive de développement, pour le coup, d'aller chercher des dossiers, du fait de l'évolution de la structuration du cabinet. Comment vous vous y prenez ?
Alors, en dehors des mêmes actions que...
Ouais, de ces actions de partage avec les confrères,
voilà,
qui
en dehors de
sont
ça,
une manière de
communiquer, ouais. De développer. Hein. Les réseaux sociaux, évidemment, la visibilité sur les réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn. Et LinkedIn, là aussi, je m'y mets, en fait, parce que je l'ai beaucoup considéré. J'ai eu un profil depuis longtemps, mais je ne faisais pas grand-chose. Et là, soit c'est mon profil qui du coup avec les algorithmes change, soit c'est, je sais pas, les avocats viennent de s'y mettre, mais j'ai l'impression que LinkedIn se transforme pour les avocats, et que donc je découvre la force de cet outil. Donc là c'est la communication plus personnelle du cabinet, de moi, et puis les articles, parce que les articles, on croit que c'est has-been, mais en fait les articles, alors il y a deux types d'articles, il y a les articles dans les revues juridiques, mais là qui ne sont pas lus par les publics, mais donc pareil, ça assoit une crédibilité envers les confrères, et puis des petits articles sur Village de la Justice, juste comme ça, franchement j'en ai pas écrit beaucoup, mais ça revient régulièrement. Voilà, donc c'est beaucoup de communication, puisque je vais pas chercher les clients.
Ok, comment vous voyez les choses pour demain ?
Alors demain, là, je reprends mon train pour rentrer chez moi à Bayonne et retrouver mari et fils.
Demain. Donc du coup, déjà, vous vivez à Bayonne et vous avez un cabinet à Paris.
Ah oui, enfin, j'ai deux cabinets. Oui,
non, mais moi, la règle en interview, c'est que je ne parle jamais d'un sujet qui n'est pas mis sur la table par l'invité pendant l'interview.
Ah d'accord.
Alors moi, une règle qui me permet de respecter l'intimité de tout un chacun.
Tout à fait.
Et de pas être intrusive. Donc, comme vous n'en aviez pas parlé, eh ben, je n'en ai pas parlé.
Ah oui, alors
mais
j'ai
puisque vous venez de le mettre sur la table, je vais m'engouffrer dans cette
histoire. Engouffrons-nous.
Donc du coup, vous vivez à Bayonne et vous avez votre cabinet à Paris. Comment ça se passe cette vie nomade?
Alors, ça se passe très bien grâce à notre ami le TGV.
C'est 4 heures de...
C'est 4 heures, donc c'est quand même une petite promenade.
Une petite trotte, ouais.
Donc ça fait 2 ans qu'on fait ça. On s'est installé à Bayonne il y a 2 ans. En fait, j'avais ouvert un cabinet secondaire à Biarritz. Donc, Biarritz est dans le barreau de Bayonne. J'avais ouvert un cabinet secondaire à Biarritz en mars 2020, mais en mars 2020, il s'est passé autre chose qui nous est tombé dessus, puisque d'ailleurs, je le fais même passer au Conseil de l'Ordre de Bayonne le 18 mars 2020, mais le confinement a eu lieu le 17 mars. Donc, j'avais mon bail, tout mon dossier, mais on m'a dit, ça attendra. Et du coup, ça a effectivement attendu 3 mois. Et donc, j'ai ouvert ce cabinet secondaire parce que ma belle famille est là-bas, donc on y allait régulièrement. Et depuis 10 ans, à force d'y aller 3 fois par an, je me disais, voilà, la région est agréable, mais on ne pensait pas forcément d'y habiter. La région est agréable, pardon, chers amis basques, est extraordinairement agréable. Quitte à y aller 3 fois par an une semaine, plutôt que de travailler sur la table de mes beaux-parents, autant avoir un bureau. Mais c'était juste ça. C'était une adresse. Et finalement, j'avais rencontré une consoeur qui m'a dit, écoutez, une domiciliation, non, mais si vous voulez, on a un bureau. Je me suis dit, vas-y, hop, on prend un bureau. Pareil que pour le reste, un bureau était disponible. J'ai dit, allez, je prends un bureau. Donc au début, c'était vraiment juste un bureau. Et puis, alors là, cliché de chez cliché, hein, mais cumul Covid plus bébé égale, en fait, le Pays Basque, ça m'a l'air beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. Donc, c'est cumul plus bébé plus changement de carrière de mon mari. Ok, vas-y, on déménage. Et en 15 jours, on est passé de « on ira aux Pays-Bas à la retraite » à « bah non, mais on ira quand notre fils rentrera à l'école dans 3 ans » à « en fait, j'ai trouvé du boulot, j'ai un entretien, potentiellement ça commence en 15 jours ». Donc ça s'est fait comme ça. Et donc, c'était l'occasion. Et en fait, ce qui a rendu les choses faciles, c'est qu'effectivement, on était passé par le confinement, donc le télétravail. Donc moi, mon fils est né aux États-Unis, donc pendant 2 mois, j'étais aux États-Unis. Le cabinet, et c'est d'ailleurs aussi comme ça qu'on a décidé de s'associer, le cabinet a parfaitement tourné avec moi à l'autre bout de l'océan, le décalage horaire. Et en fait, tout est facile. Et même au début, je n'osais pas trop dire, mais les clients, en fait, c'est peut-être propre au droit de la famille, je ne sais pas, mais les clients sont contents pour... était content pour moi, pour le bébé, et même le Paris Biarritz. Franchement, j'ai dû cacher la réalité pendant les 3 premières semaines, de peur qu'on me dise « vous êtes parti, c'est fini ». Mais maintenant, tout le monde sait « alors, vous êtes où aujourd'hui ? Ah là là, il fait beau !» Enfin, c'est extraordinaire. Donc la réalité depuis 2 ans, c'est que la résidence principale et familiale est à Bayonne, mais je suis, par contre, la réalité aussi, c'est que mon cabinet, c'est Paris, même si j'ai un cabinet secondaire avec un tout petit peu de clientèle à Bayonne, mais qui est vraiment très, très, très anecdotique. Donc, je monte à Paris 1 semaine sur 2. Bon, ça, c'est sûr que ça impose un rythme un petit peu intense.
Et vous passez, quand vous venez à Paris, vous passez toute la semaine à Paris? Vous faites 1 semaine sur 2, vraiment?
Alors, je viens 1 semaine sur 2 et en général, c'est 4 jours. Je fais mardi, vendredi.
OK.
Mais ça, j'ai très vite arrêté de compter d'être trop strict. Parce qu'en fait, là-bas, c'est 1 semaine sur 2. Mais il y a une audience, il y a un rendez-vous, il y a un truc qui fait que je vais venir 2 semaines de suite, bon bah je vais enchaîner avec le week-end, je viendrai pas pendant 2 semaines, là je vais venir, bon. Donc l'idée c'est 1 semaine sur 2 à Paris, mais ça s'adapte, je fais mon calendrier de mois en mois.
Et vous essayez de développer stricto sensu à Bayonne?
Alors, j'ai changé de point de vue sur la question. Quand je suis arrivé, je me suis dit bien sûr je vais développer, c'est extraordinaire. Évidemment, personne ne m'attend à Bayonne. Clairement, il y a ce côté, c'est petit barreau, grand barreau, qui fait que le positionnement, il faut recommencer une clientèle. En fait, c'est ça, il faut recommencer une clientèle. Et je n'ai pas, envers mes confrères bayonnais, la même approche, la même démarche qu'envers mes confrères parisiens. C'est-à-dire, clairement, je suis beaucoup plus... discret. Et je ne travaille pas de visibilité à Bayonne. parce que je ne veux pas remuer les clichés, mais j'ai peut-être peur moi-même de trimballer ma casquette de Parisien.
Parce que
quand on dit que j'ai un cabinet à Bayonne, c'est un cabinet secondaire, donc on n'est pas inscrit au barreau de Bayonne. Donc je suis avocat parisien. Et même si franchement l'accueil des confrères que je connais est génial, même des gens, enfin tout est tout... donc mon mari lui il est avocat à barreau de Bayonne, donc on rencontre des gens, ça se passe hyper bien. J'ai quand même quelques dossiers, ça se passe hyper bien. Personne m'a jamais dit qu'est-ce que vous faites là, mais peut-être que moi j'ai une retenue et que je veux pas avoir des opérations de développement. Et puis là j'ai atteint un équilibre où en fait quand même une semaine sur deux c'est une sorte de grand télétravail. Et c'est assez agréable. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que si quand vous étiez à Bayonne, vous deviez aller tous les jours au bureau, vous y perdriez un petit peu de...
En fait, vraiment, une semaine sur deux, je vais au bureau ou à la maison, mais je ne suis que sur mes dossiers. Et le fait qu'il y ait une distance physique avec Paris, déjà, on se parle moins que si on était au bureau. Alors ça peut être vu comme quelque chose de négatif, mais une semaine sur deux, je suis plus tranquille, plus dans mes dossiers, plus cool.
Plus sur le fond, plus cool.
Plus cool et avec un rythme plus cool. Et par contre, quand je suis à Paris, aussi parce que du coup mes rendez-vous sont tous concentrés, autant vous dire que mes semaines parisiennes sont denses. Mais donc le développement à Bayonne, bien sûr, si j'ai la chance d'avoir des clients, le fait. Je serais ravi de m'investir dans des formations là-bas. Mais c'est pas le même positionnement, le cabinet principal. Et puis quand même, j'ai fait ma clientèle à Paris. J'ai tous mes liens à Paris, donc ça, l'objectif n'est pas du tout de basculer.
C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai interviewé avant-hier Grégory Dorange qui fait du droit pénal, qui initialement était au barreau des Hauts-de-Seine et qui est allé s'installer à La Rochelle, donc barreau de La Rochelle-Rochefort. C'était juste avant le Covid ou juste après. Et qui a aussi évoqué ce truc de... j'arrive, mais par rapport aux confrères locaux, il y a cette histoire de pas être perçu, de pas être perçu comme l'avocat qui vient et puis l'avocat parisien qui vient et qui aurait des trucs à apprendre aux gens sur place et qui viendrait bouffer.
En fait, je pense qu'on véhicule. Enfin, c'est moi qui projette l'image qu'ils peuvent avoir de moi parce que j'ai jamais rien ressenti du tout. Je le dis vraiment bien, j'ai jamais ressenti aucune hostilité, aucune même attitude autre que ah super, parce que je connaissais déjà 2-3 confrères. Ceux qui me connaissent pas, ils me connaissent pas, mais j'en connaissais 2-3. Ils m'ont tout de suite dit ah c'est super, bienvenue. Enfin, et quand on se croise parfois, que j'ai un petit peu d'activité de palais, quand je croise, c'est toujours hyper hyper agréable. En plus, j'habite pas très loin du palais où il y a une petite brasserie. Franchement, il y a ce côté hyper sympa de rendez-vous qui est très agréable, donc vraiment j'y suis très très bien. Mais peut-être que moi j'ai peur de l'image qu'on véhicule, du cliché qu'on véhicule, et surtout quand on s'installe, quand on arrive dans le barreau de Paris en tant que jeune collaborateur, ou quand on arrive d'ailleurs dans un barreau en tant que jeune avocat, on dit allez, vous êtes gentil, j'ai fini mes études, faites-moi ma place, moi aussi j'ai le droit à ma place, j'ai fait la même chose que vous, j'arrive. Donc il y a un côté un peu conquérant ou un peu j'ai une légitimité, moi aussi je suis avocat, j'arrive. Là, c'est tout à fait différent. J'ai ma légitimité, je l'ai faite ailleurs. Et j'arrive effectivement un peu avec mes gros sabots. Donc, moi, je trouve que ça appelle à la retenue et un peu l'humilité, parce qu'aussi, il y a des codes différents et que si je veux que ça se passe bien, il faut d'abord que j'apprenne à connaître. Mais c'est pas des codes dans le sens des usages interdits. Ça se fait différemment.
Médiévaux qui seraient risqués.
Et le rapport, en fait, le rapport. Mais c'est comme dans une grande école et dans une petite école, ou comme dans une... le rapport dans des... Dans un barreau comme Paris, le rapport entre les confrères. Et ça, ça peut être un cliché que les confrères en dehors de Paris nous mettent à la tête parfois, mais c'est une réalité. On est tellement nombreux à Paris qu'on est un peu protégé par notre anonymat, et je constate qu'effectivement, il y a des rapports avec certains confrères et consoeurs difficiles et un peu conflictuels qui ne sont autorisés que parce que c'est un inconnu en face. Et lorsque c'est dans un plus petit barreau, je ne pense pas que c'est qu'on n'ose pas devenir agressif, mais qu'on ne l'est pas. On l'est beaucoup moins. Après, c'est aussi peut-être un cliché, peut-être qu'il y a aussi des confrères agressifs, mais je sens une bienveillance. Et du coup, j'ai peur d'arriver comme le Parisien qui, lui, ne sera pas bienveillant. Donc, du coup, je me tais.
Donc, on a fait cette excursion vers cette double installation quand on parlait de l'avenir, comment vous voyez l'avenir, et vous disiez, profiter de ma vie aussi à Bayonne. Quoi d'autre?
Quoi d'autre? De quoi ça fait demain? Alors, là... à moyen terme, bah, c'est poursuivre cette association et maintenant grossir comme ça. Alors pas forcément grossir avec d'autres mondes, parce que ça, je vous disais tout à l'heure que l'idée de réduire la voilure était contre nature. Bon, ça l'est toujours un peu, mais par contre, l'idée qu'on est obligé d'avoir toujours plus de monde, que la réussite, c'est grossir, ça, c'est bon, je me suis calmé. Donc je voudrais qu'on travaille bien tous les trois, que ce soit confortable pour tous les trois, que ce soit agréable pour tous les trois, que notamment mes collabs puissent, enfin notre collab pour l'instant, puisse gagner lui aussi bien sa vie avant qu'on embauche d'autres personnes si besoin, et c'est pas un objectif. Après, à un peu plus long terme, alors je pourrais pas trop expliquer pourquoi, parce que quand je le dis, beaucoup de confrères me disent « mais quelle drôle d'idée ». Je crois qu'une des pistes, c'est pas mon objectif, mais une des pistes, ce serait de rejoindre une structure, une plus grosse structure existante. Mais pas moi de grossière, forcément, mais une sorte de fusion. Mais je sais pas trop comment, parce qu'on est en droit de la famille, donc je sais pas trop avec qui je pourrais fusionner. Mais j'aimerais bien, en fait, découvrir ce que c'est que l'activité, d'un cabinet qui roule d'une plus grosse machine pour ce côté, process, mécanisme, j'aimerais bien ça, avec des décisions à plusieurs, je crois que j'aimerais bien. L'aventure individuelle est super, mais j'aimerais bien, c'est un peu bizarre de ça, mais j'aimerais bien être un peu noyé dans le lot, dans une plus grosse collectivité.
Qu'est-ce qui vous attire là-dedans?
Bah, l'idée de ne pas faire que ce que je veux. Alors, c'est pour ça qu'on me dit, mais c'est quand même bizarre d'avoir envie de perdre de la liberté. Alors, j'avoue que je vois pas comme ça. Mais l'idée que des décisions se prennent, et c'est déjà un petit peu le cas avec Hélène, là, ça m'excite assez de me dire qu'on va avoir des discussions et que peut-être, bon, bah, très bien, on va bien voir ce que ça va devenir, alors que c'est pas moi qui ai choisi forcément ça. Mais dans une plus grosse structure, devoir prendre en compte la vie d'autres personnes, c'est quelque chose, bah, que je crois que je fais un peu dans la vie. Mais là, dans l'activité professionnelle, en fait, ça ne m'arrive pas. C'est un peu comme quand on est parent à deux, bon bah on est obligé de prendre en compte la vie de l'autre. Bah j'aimerais bien être obligé de prendre en compte la vie d'autres personnes dans la structure, et puis aussi de me confronter à des questions qui ne se posent. Si j'étais un cabinet par exemple avec d'autres matières, bah de me confronter à des questions de confrères qui ont d'autres préoccupations, d'autres types de clientèle. Donc ça, je crois que j'aimerais bien. Et ensuite, je pense que j'aimerais bien continuer. J'aimerais bien faire un diplôme de droit fiscal. Je sais que c'est un peu bizarre, mais j'aimerais bien ajouter une corde à mon arc là-dessus, en droit fiscal. Donc je cherche régulièrement s'il y a un diplôme qui me correspondrait pour repartir à la fac.
Parce que vous êtes souvent confronté à des problématiques fiscales dans les dossiers de vos clients.
Ah bah oui,
et...
enfin...
ouais.
C'est pour ça que...
Sur l'aspect patrimonial, en fait, lié
que...
à la...
Ouais. À la séparation, au patrimoine, ouais. Mais c'est pour ça qu'on disait, le droit de la famille, en fait, c'est une matière hyper technique. Et, bon, ceci dit, c'est un cliché dans beaucoup de matières, hein, de se dire que être spécialiste, en fait, c'est impossible d'être spécialiste que du chapitre temps du code civil sans regarder le reste. Et le droit fiscal, évidemment, bah, plus on monte en expérience, donc plus on monte en expérience... En gamme, comme je vous disais, en gamme de clientèle, donc de préoccupations différentes. Le droit fiscal, c'est devenu dans les dossiers une préoccupation de base aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a la fiscalité du divorce, et finalement ça, on s'y forme assez vite aux questions spécifiques. Mais là, moi, je ressens que j'ai besoin d'avoir une vision plus générale de la fiscalité. Donc ça, c'est un truc que je regarde régulièrement. Et puis après, je pense que quand j'en aurai marre de tout ça, je deviendrai peut-être médiateur, médiateur, pas médiateur et avocat. Parce que j'adore ça quand je me suis formé aux modes amiables, un petit peu au début par pression parce qu'il fallait le faire ou par mode, et aujourd'hui parce que c'est très très agréable à exercer. Quand on fait un dossier contentieux dans le sens où il y a du litige, mais qu'on se force à le faire sur des méthodes amiables, c'est génial. Et réussir à capter l'attention et la confiance de l'autre époux, c'est un challenge dans chaque rendez-vous que je trouve... Et je crois que j'y arrive. Enfin, je vois quand l'autre époux se dit « Ah ok, l'avocat en face, non pas, il est pour moi, parce que c'est pas la question. Mais bon, ok, il veut avancer, il comprend. » Et c'est très agréable. Et je me dis que le jour où j'aurai, si ça arrive, envie de faire autre chose, bah, je ferai peut-être ça. Donc là, la prochaine étape, c'est un DU de droit fiscal et un DU de médiateur.
Pour en revenir sur la fiscalité, est-ce que c'est de la fiscalité ou est-ce que vous trouveriez pas votre bonheur en gestion patrimoniale ?
Je sais pas encore, faudrait que
Ouais.
Je ne sais pas. Je crois que la fiscalité est vraiment pure. J'ai fait 2-3 petites formations comme ça. Curieusement, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais curieusement, assez intéressé. Donc,
Bon, ben, s'il y a des fiscalistes qui nous écoutent et qui ont formations ou une formation à recommander, au moins ils savent à qui le faire. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et dont vous auriez aimé qu'on parle? Vous avez le droit de dire non.
Je crois que non. Non, on a évoqué voilà, le fait que, en fait, quand votre punchline d'un avocat bien dans sa robe, mais j'ai écouté d'autres épisodes de votre podcast, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je pensais, mais j'avais peur que ce soit que un avocat bien dans sa robe, c'est un avocat pour qui tout est facile. Et en fait, on a pu voir que, et j'ai compris que je pouvais le dire aussi, que non, ça n'est pas être bien dans sa robe, c'est un cheminement. Et donc, c'est pas un métier facile. Et ce n'est clairement pas un métier facile. Donc, on l'a pu l'aborder. En tout cas, j'ai eu le sentiment que je pouvais l'aborder. Donc, je me suis senti libre de le dire. Donc, c'est le principal. Donc, non, c'était pas facile. Mais non, ça va.
Quelle est votre dernière joie?
Ah! Alors ça, vous savez que je savais qu'il y avait la question qui allait venir, puisqu'on écoute deux épisodes. Et c'est une des questions qui m'a empêché de dormir.
C'est vrai?
Mais oui, parce que... Donc ça y est, le mec qui commence à répondre par autre chose. La vraie joie. Du coup, j'ai regardé dans le dictionnaire, quoi. La vraie joie, il y a une notion d'intensité, de béatitude, donc vraiment quelque chose de fort. Et ben, c'est assez terrible à dire, mais ça n'arrive pas tous les jours.
Non.
Ça n'arrive pas tous les jours. Et je me suis dit, mais ma dernière vraie joie où j'étais une sorte d'extase... Enfin, ça va paraître ultra cucu, excusez-moi, mais ça doit être le mariage. Et précisément, c'est les premières heures du week-end de mariage où les invités arrivent. On l'avait fait en Pays Basque, et donc j'avais le sentiment que l'amour des gens venait à moi. C'était quelque chose qui me rendait fou, quoi, de voir les gens arriver. Et après, la vraie joie, c'est quand on regarde notre fils et qu'on se dit « Oh, t'as vu, il a fait ça !» Parce qu'il a 3 ans, donc on est encore dans la phase où tout est nouveau tout le temps, mais « Oh, t'as vu, il a dit ça, il est bien !» Ça me rend fou, donc c'est terrible, mais c'est je pense que c'est ça, les vraies joies.
Du coup, ça arrive souvent.
Alors ça arrive plus souvent, mais ça arrive plus souvent. Mais sinon, un truc où je me suis dit après, bon, les vrais... Alors mon dernier bonheur, mon dernier moment où je me sentis vraiment...
Bien, si on prend un mot
bien
moins intimidant.
Ouais, je sais pas, voilà, ouais, exactement, moins intimidant.
Alors, la joie, ça peut aussi être, et ça, c'est la vision spinoziste de la joie, c'est la croissance. C'est-à-dire que selon Spinoza, la joie pour un organisme, elle est dans la croissance, dans l'augmentation de soi. Et moi, ce qui est une vision que j'aime bien, et d'ailleurs qui a fait partie des raisons pour lesquelles je pose cette question, parce que je crois que j'ai lu un petit bouquin, un petit essai de Frédéric Lenoir sur la joie selon Spinoza ou l'art de la joie, je ne sais plus. À ce moment-là, quand j'ai lancé le podcast, à peu près de manière concomitante. Et j'aime beaucoup cette notion que ce mot joie qui s'apparente à cette notion de plaisir, de bonheur, de béatitude, enfin, d'une émotion positive assez intense, finalement, soit relié à la notion d'évolution personnelle. Et en général, l'évolution personnelle, c'est un peu douloureux quand même. Enfin, je veux dire, il faut dire, on passe un peu par cette phase de croissance, qui est énergivore, voire vraiment physiquement douloureuse et psychiquement douloureuse. Et donc ça peut être aussi une autre manière. Enfin, je ne sais pas si ça vous donne des idées de voir les choses sous le prisme spinoziste. Pas forcément de la douleur, mais en tout cas de ce sentiment de « tiens, là j'ai grandi, quoi. Là je me suis augmentée d'une certaine manière ».
Alors oui, un petit peu où je me suis augmenté, où j'ai une sorte de prise de conscience. Alors dans ce cas-là, une des dernières petites joies, c'est d'avoir... c'est le week-end dernier, parce que bien sûr, qui dit avocat... Alors attention, le cliché. Hein, qui dit avocat en province, je me suis mis au golf, bien sûr. non, mais du coup, je suis allé au golf dimanche dernier. Alors bon, bien sûr, je suis absolument nul. Alors ma joie n'a pas été de taper une bonne balle sur 15, mais après de m'arrêter, de me prendre un petit café au soleil et de me dire que je prenne du temps juste pour moi. Et que je l'avais décidé, et que je prenais du temps juste pour moi, donc de poser. Genre, enfin, bon, pardon pour le côté gnangnan, mais c'était un peu gratifiant de dire j'ai réussi à prendre du temps pour moi. Donc voilà, c'est ça mes derniers petits bonheurs.
Bah, félicitations d'avoir pris
Merci.
Du temps que pour vous. Quel est votre principe déontologique préféré?
Ah, si, j'avais zappé cette question.
Ouais, mais elle est plus récente, celle-là.
Ah, c'est pour ça.
C'est Maxime Colliou qui m'a dit « Ah, ça pourrait être intéressant de connaître les principes déontologiques. »
Mais non, je pense que c'est la courtoisie dans le rapport vraiment entre... Alors, Il y a des principes déontologiques qui sont liés aux clients, il y en a d'autres qui sont liés aux confrères. J'ai tout de suite pensé au rapport entre confrères, la courtoisie. Oui, parce que en fait, on me l'avait dit dès que j'ai commencé ce métier, que le rapport entre confrères était une grande source de ou satisfaction ou de grande fatigue. Et c'est vrai. Et quand ça se passe bien avec un confrère, c'est extraordinaire. Donc j'irai ça.
Donc la courtoisie. Et dernière question, qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Pendant mes semaines parisiennes, un petit pantalon chemise, et pendant mes semaines basques, des espadrilles et un bermuda.
Merci beaucoup pour cet échange.
Merci.
Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine !